Alors bonjour à ceux que j'ai pas salués. Donc on va poursuivre ce matin Actes des Apôtres. On est au chapitre 16. Donc je vous invite à prendre les Actes, chapitre 16. Et on va lire les versets 1 à 15. Actes 16, verset 1. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icone rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous !» Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Voilà, je m'arrête ici. Alors, on a vu la semaine dernière cette séparation de Barnabas et Paul. Maintenant, il va y avoir deux équipes qui vont partir. Et on continue donc, on suit maintenant l'apôtre Paul qui part pour son deuxième voyage missionnaire. Et on va voir ici l'embryon d'une nouvelle église qui va se former. Donc Paul part dans une terre qui est inconnue. Il veut aller en Asie, c'est-à-dire ici dans la Bible, c'est la Turquie occidentale. Et il veut aller planter l'évangile là où l'évangile n'a pas encore été prêché. Et Dieu nous enseigne par ce texte sur la manière dont il s'est servi de lui au commencement de la prédication de l'Évangile. Et là, la mission de Paul, eh bien, c'est implanter des églises et puis former, faire des disciples. Et il y a trois choses qui se dégagent du passage qu'on vient de lire. C'est que pour implanter une église, il faut premièrement se faire tout à tous. Il faut deuxièmement être à l'écoute du Saint-Esprit. Et il faut troisièmement compter sur Dieu qui travaille lui-même avec nous. Alors d'abord, premièrement, il faut être prêt à se faire tout à tous. Arrivé à Lystre, Paul fait la connaissance d'un jeune homme. Donc il est écrit, nous lisons, hein, « Fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec, les frères de Lystre et d'Icone rendaient de lui un bon témoignage. » Alors il se décide à le prendre avec lui, c'est Timothée. Timothée qu'on connaît un petit peu parce que on a deux épîtres qui lui sont adressées, première et deuxième épître à Timothée dans le Nouveau Testament. Et on voit que Paul va lui imposer de se faire circoncire. Verset 3, Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Et là, on voit un paradoxe apparent. Pourquoi ? Parce qu'on vient de voir au chapitre 15 qu'au concile de Jérusalem, les apôtres et les anciens vont dire aux païens qu'ils ne sont pas obligés de se faire circoncire. Donc, pas tenu de pratiquer la loi et pas tenu de se faire circoncire. Et ici, Paul impose la circoncision un membre de son, de son équipe. Alors, ça semble être un paradoxe. Et cela dit, on voit par cela l'importance que Paul attache à, au fait de pouvoir gagner tout le monde. Et de pouvoir gagner non seulement les païens, puisqu'ils se dirigeaient vers, vers toutes ces, ces nations païennes, mais aussi les juifs, et surtout les juifs. En 1 Corinthiens, on lit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et Paul voulait gagner les juifs, et pour gagner les juifs, il estimait que c'était vraiment important que Timothée se fasse circoncire. Il fallait ne rien faire qui puisse repousser l'évangile pour toucher les juifs. Et Paul savait que Timothée, bien que de mère juive, était comme un samaritain. Hein, son, le père étant grec, eh bien, le sang n'était pas pur, c'était un mélange. Et s'il n'était pas circoncis, eh bien, ça allait générer un handicap pour pouvoir gagner les juifs. Alors il lui impose la circoncision. En même temps, entre parenthèses, on voit ici que l'appel de Dieu nous impose parfois des sacrifices auxquels on peut ne pas s'attendre. Hein. Timothée part, hein, il est content que Paul eh bien, le prenne dans son équipe et puis il dit maintenant Timothée, eh bien, on va te circoncire. Ah, enfant c'est une chose, adulte c'est autre chose quand même. Hein. Et quand on veut servir le Seigneur, eh bien, parfois il y a des sacrifices, il y a des sacrifices à faire. Et cette circoncision était importante parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait quelque chose qui crée un obstacle à l'évangile. Au commencement de l'évangélisation, on voit que Paul eh bien, essayait à chaque fois de se rendre aux synagogues. Les jours de sabbat, il allait à la synagogue, il voulait rencontrer les juifs et rencontrer tous ceux qui s'approchaient des synagogues et des juifs, donc du Dieu d'Israël. Ainsi, être irréprochable devant les juifs, c'était impératif pour pouvoir répandre à la fois l'évangile aux juifs et aux païens. Donc ça, c'est la raison de sa circoncision. Et c'est important de noter qu'au verset 4, Paul dit, il passe dans toutes les églises et il dit, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Donc il leur disait, vous païens, vous n'avez pas besoin de vous faire circoncire. Alors on se disait, mais... Parce que, comprenez, il oblige Timothée à se faire circoncire. Ben, ceux qui le connaissaient pouvaient se dire, mais alors finalement, Paul dit qu'il faut respecter la circoncision. Alors non. Il disait, suivez ce que les apôtres ont dit. Suivez ce qui a été recommandé. Ne vous faites pas circoncire nécessairement. Pas besoin de la circoncision, pas besoin de l'observance de la loi de Moïse pour les païens. Mais pour réussir à gagner les Juifs, tout autant que les païens, alors il valait mieux que Timothée soit circoncis. Si vous voulez garder votre main dans Actes et prendre 1 Corinthiens 9, versets 19 à 20. 1 Corinthiens 9, 19 à 20. Passage à mettre en relation avec notre texte. Paul dit, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, « je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » Et c'est assez étonnant ici que Paul dise cela puisqu'il dit qu'il a été comme Juif avec les Juifs, mais il était Juif, né d'Hébreu, mais il dit, j'ai été Juif avec les Juifs. Il dit en plus qu'il a été avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, mais il était pharisien à l'origine, respectueux vraiment de la loi. Alors ça invite à se poser la question, mais est-ce que sa conversion aurait changé quelque chose dans la pratique de la loi de Moïse ? Et la réponse, ben, c'est oui, certainement, ça a vraiment changé quelque chose, puisqu'il dit, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Donc, l'apôtre nous dit, mais il est libre de la loi de Moïse, entièrement libre, il n'était plus sous la loi, il était libre à l'égard de toutes les restrictions de la loi. Mais à cause de son désir de gagner les Juifs, alors, eh bien, il était comme Juif, et aussi ils se mettaient volontairement parfois sous la loi pour gagner ceux qui étaient encore sous la loi. C'est pour cela que, eh bien, en tant qu'évangéliste, pionnier, apôtre, eh bien, il avait certainement un respect pour le sabbat, assurément, parce qu'il voulait gagner les Juifs qui respectaient le sabbat. C'est pour ça qu'il voulait que Timothée soit circoncis, parce qu'il voulait gagner les Juifs. Regardez la suite, 1 Corinthiens 9, 21. « Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, pas la loi de Moïse, mais la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » Ça signifie que qu'ils pouvaient aussi se retrouver avec des païens et faire quelque chose que peut-être la loi de Moïse regardait comme une transgression, mais lui, il n'avait aucun problème à le faire si la loi de Christ dans son cœur le rendait libre de le faire. Si un jour de sabbat, il trouvait un païen avec son bœuf, pour reprendre l'illustration du Seigneur, qui est tombé dans un puits, eh bien, il n'avait aucun problème à retrousser ses manches et puis sortir l'animal, bien que c'était un jour de sabbat. Il ne violait pas sa conscience, tout allait bien. 1 Corinthiens 9, versets 22 et 23. « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » Alors, de quelle faiblesse parle-t-il ici? Il parle de la faiblesse qu'il vient de développer au chapitre précédent, c'est donc 1 Corinthiens 8, et c'était en ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Donc, que certains n'osaient pas manger de peur de péché. Et particulièrement les Juifs convertis, jamais ils n'auraient mangé une viande sacrifiée aux idoles. Ça, c'était certain. Donc, ces mêmes viandes que le Concile de Jérusalem recommandait aux païens de ne pas manger afin de ne pas choquer, justement, ces Juifs. Mais Paul, il était libre d'en manger. Il pouvait en manger. Mais il se rendait faible avec les faibles, faible dans la conscience par rapport à ces choses. Et pas qu'ils étaient... ça n'avait rien de méprisant. Hein. Simplement, chacun ne vivait pas la foi de la même manière en fonction de sa culture, de son origine, de sa manière de faire. Hein. Et Dieu aime tous, hein, respecte tous. Et il fallait aussi eh bien, honorer ceux qui étaient faibles dans leur conscience. Hein. Et tout ça, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend à être souple. Nous sommes réellement libres en Jésus-Christ, mais il faut qu'on se fasse tout à tous, afin d'en sauver de toute manière, c'est-à-dire par tous les moyens possibles, quelques-uns. Par tous les moyens possibles, je mets un bémol. Ça ne veut pas dire la fin justifie les moyens, peu importe, je vais aller dans la débauche en me disant « mais finalement, je vais réussir à gagner cette personne hein, au bout d'un certain temps ». Non, non, c'est pas ça. Hein. De toute manière ou par tous les moyens. Il faut respecter ce que Dieu dit. Et c'est plutôt « s'il faut faire des sacrifices pour gagner mon prochain, alors je vais faire des sacrifices ». Vous vous souvenez de Hudson Taylor hein? Il a quitté le confort de la côte de Chine où il y avait les maisons missionnaires, tout allait bien pour les missionnaires sur la côte. Hein. Et il est rentré dans le cœur de la Chine, il s'est retrouvé tout seul, là, seul européen au milieu des Chinois. Et puis, il a enlevé ses vêtements d'européen, il a revêtu les vêtements d'un Chinois, il s'est fondu, il s'est fait tout à tous, afin d'en gagner quelques-uns. D'autres partent, hein. Et on a l'exemple avec Kerry, voilà, dans des tribus, et ils vont... ils vont travailler pour apprendre la langue, pour déchiffrer, pour traduire. Ils vont se soumettre aussi à certaines, peut-être, coutumes du pays pour ne pas choquer et de manière à pouvoir les gagner, quoi qu'ils sont libres. Donc, voilà pourquoi Timothée fut tenu de se faire circoncire s'il voulait faire partie de cette équipe missionnaire. Mais le texte nous apprend une deuxième chose. C'est qu'il faut être attentif au Saint-Esprit. Regardez Acte 16, on revient dans Acte 16 et verset 6. ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Donc, jusqu'à présent, l'équipe missionnaire qui était partie d'Antioche se dirigeait tout droit, alors dans votre sens, la carte c'est comme ça. Donc, Israël est là, se dirigeait tout droit vers l'Asie, donc vers l'Ouest. Mais au niveau d'Antioche de Pisidie, donc l'autre Antioche, le Saint-Esprit fait obstacle et les arrête. Et ils ne peuvent plus avancer. Alors comment ? Dieu ne nous dit pas comment le Saint-Esprit les a arrêtés, mais c'était suffisamment clair pour que Paul comprenne, bon ben, on arrête de continuer par là, ce n'est pas le bon chemin, on s'arrête. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils décident de remonter vers le nord. Donc, ils repartent comme ça. Et donc, ils vont passer entre l'Asie, donc, qui est là, et la Galatie. Ils vont passer au travers de la Phrygie. Et qu'est-ce qu'ils ont devant eux ? Ils ont la Bithynie qui est tout en haut. Alors, eh bien, ils s'apprêtent à rentrer en Bithynie en se disant, le Seigneur nous conduit là. Verset 7. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. De nouveau, bing, ça s'arrête. Alors très bien Seigneur, mais alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Il ne reste plus qu'à droite ou à gauche. Alors ils décident d'aller sur la gauche, donc ils se retrouvent sur le haut de l'Asie. Verset 8, ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Donc ils sont, l'Asie est là, ils passent comme ça et puis ils arrivent à une zone portuaire, donc à Troas. Donc, l'Esprit de Dieu les a fait contourner toute l'Asie, ici, et ça veut dire contourner toutes les villes telles que Colosse, Laodicée, Éphèse, Milet, Smyrne, Sardes, Philadelphie, Hiérapolis, Thyatire, Pergame, etc. Toutes ces villes qu'on connaît, hein, puisque après elles sont nommées ailleurs dans les Écritures. Mais ça nous apprend plusieurs choses. D'abord, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas la force agissante de Dieu, hein, comme certains se plaisent à le dire. Ce n'est pas juste une énergie, l'énergie de Dieu, le pouvoir de Dieu, mais c'est une personne avec une volonté. En 1 Corinthiens 12, on voit que l'Esprit a une volonté, il agit, il est vraiment une personne. L'Esprit de Dieu conduit et veut conduire les enfants de Dieu. Ça signifie que aussi l'évangélisation, eh bien, ne devrait pas être au gré de nos pensées, comme on pense, sans s'en référer au Seigneur et s'appuyer sur le Seigneur. Si Paul n'avait pas écouté s'il n'avait pas été attentif au Saint-Esprit, mais s'il avait écouté que son propre cœur, ben, il serait allé droit en Asie. Ou il serait allé droit en Bithynie, immédiatement. Surtout avec son caractère bien trempé, hein, ce n'était pas un petit obstacle qui pouvait l'empêcher, hein. Bon, on y va. Mais Dieu dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Recommande-le dans tes voies et il aplanira tes sentiers. Ça, c'était l'attitude de Paul et ça devrait aussi être notre attitude en toutes choses et notamment en ce qui concerne l'évangélisation. Je me souviens, il y a longtemps, j'ai parcouru des kilomètres en voiture pour un projet d'évangélisation. Donc, il s'agissait de louer une salle dans un village pour faire une campagne d'évangélisation. Et des kilomètres, pendant plusieurs jours, hein, frapper à des portes, donner des lettres et des lettres à des maires de communes, etc. Et finalement, rien. Alors que des refus. Ça n'a servi à rien. Même, on n'a même pas eu l'occasion d'évangéliser les villages en question, hein, parce que le but, c'était d'essayer de louer une salle. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu ne voulait pas sauver dans ces villages, qu'il ne voulait pas sauver ces personnes. Bien sûr, Dieu veut sauver tous les hommes. Mais apparemment, je n'étais pas la bonne personne, à la bonne place, au bon moment et dans le bon projet. Ça, c'est devenu très, très clair pour moi. Très, très clair. Et Dieu a une volonté aussi en ce qui concerne l'évangélisation et on doit l'écouter. On doit être sensible à sa voix. Il conduit, il empêche, il donne des directions qu'il faut qu'on suive. Ça ne veut pas dire que Dieu ne voulait pas toucher l'Asie. C'est clair, Dieu voulait toucher l'Asie. Mais Dieu ne voulait pas que Paul y aille maintenant. Alors pourquoi ? Avant de répondre à cette question, regardez, c'est intéressant de voir Actes 19, 10, où on voit que Dieu a touché l'Asie finalement. Regardez Acte 19, verset 10. Il est dit, donc il est arrivé ici à Éphèse, à l'école d'un nommé Tyrannus, Éphèse en Asie. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Donc là, c'est Paul qui est en train d'enseigner à Éphèse pendant 2 ans. Et ces 2 ans, ben, ça va lui permettre de répandre l'évangile justement dans toutes ces villes que nous venons de nommer juste avant. Donc Dieu voulait que Paul rayonne en Asie. Mais là, ce n'était pas le bon moment. Alors pourquoi ce n'était pas le bon moment ? Est-ce que les cœurs de cette région n'étaient pas encore prêts ? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que aussi Dieu savait que si Paul rentrait directement en Asie, il verrait immédiatement les besoins. Regardez là, il est resté 2 ans. Il verrait les besoins et du coup, il ne pousserait pas jusqu'en Grèce. Peut-être ça aussi. En tout cas, Dieu avait une volonté différente de celle de Paul, donc de ce qu'il pensait faire au commencement. Et on doit être à l'écoute du Saint-Esprit pour être efficace justement dans nos ambitions concernant l'évangélisation. Pendant la nuit, on va reprendre versets 9 et 10, acte 16, versets 9 et 10. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut. Il lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. On peut se demander qu'est-ce que Paul aurait eu l'intention de faire maintenant qu'il était à Troas. Donc, sur le bord de l'Asie, il y a toute la côte, avec Éphèse un peu plus bas notamment. Est-ce que Paul ne se serait pas dit « Ah ben, Seigneur, tu veux que j'aille toucher toutes ces villes portuaires hein? » On sait que Paul se concentrait souvent sur des villes portuaires parce qu'il savait que de là, il y avait tellement de passages de bateaux et de commerce que l'Évangile allait se répandre encore plus loin. Est-ce qu'il n'allait pas redescendre finalement sur toute cette côte ici turque ? Et Dieu, l'en a empêché tout de suite en accordant une vision et en lui permettant de voir, regarde au-delà, regarde en Grèce. Il est intéressant de voir que ce Macédonien dans la vision dise « secours-nous » et il ne dit pas « secours-moi ».« Secours-nous » et c'est l'appel là, de toute la Grèce et puis l'appel de l'Europe plus loin où Dieu dit « mais maintenant, viens par ici ». Ils ont besoin de l'Évangile. Maintenant, il y a cette vision, et c'est peut-être bien de s'interroger par rapport aux visions et parler un petit peu de ce sujet. Est-ce que nous devrions nous attendre aujourd'hui à recevoir une vision de Paul ? Vous savez, souvent, on se dit « Ah, j'aimerais bien que ça s'inscrive sur le mur. Hein. » On est là, on cherche la volonté de Dieu. Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien que... Paf ! Et ça soit tout clair, tout limpide, une vision. Comprendre sa volonté. On voit que dans l'Ancien Testament, d'abord, pour ce sujet des visions, après la chute, Dieu a commencé à s'adresser aux hommes par le biais des visions et les patriarches recevaient des visions. Par exemple, Abraham, Jacob. Les deux termes les plus courants qui nous sont traduits par vision concernent à la fois ce qui est visuel et ce qui est auditif. Par la suite, on avance, après les patriarches, les prophètes vont recevoir également des visions qu'ils redonnaient au peuple d'Israël. Donc, c'était un moyen pour Dieu de parler à son peuple. Dieu donnait une vision au prophète, le prophète l'a redonnée par oral et par écrit, puisque beaucoup nous sont répertoriés dans la Bible et dans l'Ancien Testament. C'est... intéressant de voir aussi ce verset, il est dit « La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. » Ça veut dire que parfois Dieu se retirait, ne donnait plus de vision, ne parlait plus à son peuple parce qu'Israël était dans l'infidélité, dans la désobéissance. On voit aussi que les visions qui étaient données aux prophètes s'intégraient dans la parole de Dieu. Par exemple, je vous lis une vision, c'est Amos. « Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits Il dit, « Que vois-tu, Amos ?» Je répondis, « Une corbeille de fruits. » Et l'Éternel me dit, « La faim est venue pour mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. » Donc ici, il y a cette vision qui va venir s'intégrer dans la parole de Dieu, puisqu'on peut le lire maintenant dans le prophète Amos. Donc ça venait s'ajouter à la révélation. Petit à petit, ça complétait la révélation. Donc c'était une partie du message que Dieu donnait à son peuple. Mais c'était aussi, comme ça faisait partie de la révélation, ça nous était aussi destiné à nous plus tard pour que nous comprenions beaucoup et que nous apprenions de Dieu. Par exemple, Daniel va recevoir aussi des révélations, des visions. Et il nous les transmet pour qu'on comprenne le futur. Ézéchiel reçoit cette vision du temple, pareil, destinée à ce que nous comprenions la volonté de Dieu. Donc les visions étaient des révélations qui s'ajoutaient petit à petit à la révélation qui était déjà donnée. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, Dieu continue à donner des visions à ses serviteurs, les apôtres. Donc on vient de le voir ici. Et celles-ci étaient des révélations aussi nouvelles que les apôtres ne pouvaient pas forcément déduire de la lecture de l'Ancien Testament. Par exemple, l'apôtre Pierre voit la vision de cette nappe qui descend avec les animaux purs et impurs. Pierre ne pouvait pas le déduire. Donc c'est quelque chose qui montre, voilà ma volonté maintenant. Donc c'était Dieu qui disait, voilà, le salut est aussi pour les nations païennes. Et puis c'est aussi le cas ici pour Paul, donc qui reçoit cette vision du Macédonien, où Dieu voulait que Paul comprenne, maintenant il faut que tu passes de l'autre côté, que tu ailles en Grèce pour aller annoncer l'évangile. Paul a eu 6 visions, ça fait beaucoup pour un seul homme. Quand on arrive dans les épîtres, on voit qu'il n'y a pas d'enseignement doctrinal pour l'Église et pas non plus d'exhortation à rechercher ou à attendre des visions. Dans toutes les épîtres, c'est pas ce que Dieu nous enseigne. L'exhortation centrale des épîtres, c'est plutôt connaître Dieu et s'attacher à la parole de Dieu, sachant que c'est elle qui est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire l'Église. Et puis ensuite, on arrive à la révélation de Jean, donc qui concerne la fin des temps, l'Apocalypse. Là encore, Jean a une vision, mais une vision qui lui montre l'avenir, qui lui montre le futur, donc tout ce qui va se passer à la fin, et ça vient se rajouter à la parole de Dieu. Et puis, la révélation s'achève avec « Tu n'ajouteras point, tu n'ôteras point, sinon je te frapperai des fléaux décrits dans ce livre. » Et on peut comprendre que il n'y a pas de vision qui puisse venir compléter la parole de Dieu. Ça, c'est terminé. Pas de vision qui vienne s'ajouter à la Bible. Dans l'Épître aux Hébreux, on lit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, dont les visions, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Donc, Dieu nous a parlé, Dieu nous parle par le moyen du Fils. Il nous parle par sa vie, il nous parle par son exemple, par son enseignement, par ses paroles. Le tout est contenu dans les Écritures. Néanmoins, Dieu ne dit pas qu'il ne donnera plus de vision. Et on voit, même en s'adressant aux Juifs, il parle des Juifs, il dit qu'à la fin, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Donc Dieu peut et pourra encore donner des visions s'il le souhaite. Et il y a aussi des témoignages à ce sujet. Ce qu'on peut constater, en tout cas, par rapport aux témoignages et aux expériences, c'est que souvent, ces visions actuelles sont données dans un contexte où il n'y a pas la parole de Dieu. Par exemple, souvent, on entend des témoignages dans des pays musulmans ou des pays où il y a beaucoup de persécutions, où la parole de Dieu n'est pas, alors Dieu offre, fait grâce, donne une vision pour conduire à la parole de Dieu et à Jésus-Christ finalement. Dieu peut aussi accorder une vision pour conduire au salut. En tout cas, il l'a fait pour l'apôtre Paul. Il l'a conduit au salut de cette manière. Et il semble également que Dieu puisse accorder une vision dans un contexte particulier, apparemment pour prévenir son peuple, l'Église, donc en temps de guerre, de génocide, voilà, pour prévenir. C'est en tout cas les témoignages que l'on reçoit. Mais toutes ces exceptions ne devraient pas nous faire oublier que la révélation, elle est achevée et que Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse comprendre sa volonté. Ça, c'est dans les Écritures. Les Écritures, ça nous donne toutes les réponses de Dieu pour les questions qui sont actuelles. Et Dieu veut nous parler par les Écritures. Donc, le moyen prioritaire, c'est la Bible. C'est toujours la Bible. Il y a cette parole que Jésus a dite, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Vous vous souvenez ? L'homme riche dit, « Mais si quelqu'un des morts ressuscite, alors, eh bien, ils pourront croire. » Et ils ne viendront pas dans ce lieu de tourment. Et Jésus dit non, ils ont Moïse et les prophètes. Ça leur suffit. Et même si quelqu'un des morts ressuscité, il ne se convertirait pas. Donc le moyen de Dieu pour nous révéler sa volonté aujourd'hui, c'est la parole de Dieu prioritairement. Et c'est important de le souligner, parce que toutes les visions ne sont pas d'origine divine. On se dit, une vision même peut-être, de quelqu'un de biblique, on se dit, c'est Dieu qui parle. Mais le diable et notre propre cœur peuvent nous jouer des tours. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de sectes qui sont fondées sur des visions. C'est à chaque fois quelqu'un qui a une apparition d'un ange, d'une personne de la Bible, soi-disant de la Bible, et qui provoque un engouement dans une direction et qui provoque une secte. Ce qui veut dire que le diable accorde des visions. La Bible dit qu'il peut se déguiser en ange de lumière. Donc voilà, il apparaît, on se dit « Oh, c'est divin !» Non, c'est pas divin, c'est un piège. C'est un piège. Et puis, il y a aussi ces paroles de Paul dans Colossiens quand il dit que personne... sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ça signifie aussi qu'il y a des visions qui sont d'origine charnelle. C'est notre cœur qui nous joue des tours, qui nous fait croire, alors qu'il n'y a rien. Donc il y a une erreur ici. Alors oui, Dieu donne des visions, mais est-ce qu'on devrait s'attendre à avoir des visions de la part du Seigneur ? Non, on devrait plutôt lire la parole de Dieu. Nous sommes conduits par la foi et non par la vue, non par les visions. Alors Paul, pour terminer, prend un bateau pour aller en Europe et il finit par arriver donc en Grèce, de l'autre côté. Et il va parcourir plusieurs villes et il va arriver jusqu'à la ville de Philippe. Dans cette ville, il semble qu'il n'y avait pas une communauté juive développée. Pourquoi ? On le déduit à partir du verset 13, donc, où il est dit « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. » D'habitude, Paul se rendait directement à la synagogue, surtout un jour de sabbat. Mais ici, il semble qu'il n'y a pas de synagogue. Et les croyants qu'il trouve un jour de sabbat réunis sont en fait des croyantes qui sont au bord de cette rivière et qui ont apparemment la réputation d'aller souvent là. Donc, elles devaient se réunir pour parler du Dieu d'Israël, pour prier ensemble. Et on arrive à notre dernier point. C'est que pour implanter une église, il faut aussi s'attendre à Dieu et compter sur le Seigneur. Et il y a d'une part ce que Dieu attend de nous, et on pourrait dire ce qui est en notre pouvoir, et puis ensuite il y a ce qui n'est pas en notre pouvoir. On a vu d'abord Paul éliminer tout ce qui pouvait être un obstacle, il voulait se faire tout à tous pour vraiment pouvoir les gagner. On a vu... Il était attentif au Saint-Esprit afin de bien suivre sa direction, aller là où il voulait qu'il aille. Et puis bien sûr, ici on pourrait ajouter, il allait au contact des gens et prêchait l'Évangile. Ça, c'était ce qui était en son pouvoir. Mais il y a une, la majorité, hein, la large part, hein, eh bien là, il fallait que Paul s'attende vraiment à Dieu. C'est celle, la part par laquelle le Saint-Esprit opère quelque chose sur le cœur de celui qui écoute. Verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Et on voit par ce verset l'œuvre de Dieu dans le cœur d'une personne pour lui permettre de recevoir l'Évangile. Le Seigneur lui a ouvert le cœur et elle était attentive, elle était à l'écoute. Alors bien sûr, Lydie était déjà, avait quand même une ouverture par rapport à la parole de Dieu. Elle était dans un lieu de prière. Elle était déjà, il y avait déjà une quête, quelque chose, il y avait un embryon. Mais le Seigneur va travailler dans son cœur. On peut parler un petit peu d'elle. Lydie, elle était marchande de pourpre. Et comme cette couleur et les tissus de cette couleur, c'était des tissus qui étaient pour la royauté, c'était quelque chose pour les gens plutôt aisés, riches, il est possible que c'était aussi une femme qui avait une certaine aisance financière. On voit qu'elle va accueillir l'équipe missionnaire dans sa maison, donc ça suppose qu'elle avait une maison suffisamment grande aussi, hein, vaste. Après, on voit que Paul va parler aux frères dans la maison de Lydie, donc elle avait de la place. On peut parler de l'équipe, juste entre parenthèses. Donc l'équipe maintenant, c'est Paul, Silas, Timothée et Luc. Luc vient de s'ajouter. Pourquoi ? Parce qu'au verset 8, il y a le pronom « il », franchir la Mysie et descendir à Troas. Et quand on arrive au verset 10, il est dit « Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt ». Donc ça veut dire que Luc, ici, s'ajoute à l'équipe missionnaire. Il s'est peut-être converti à Troas. Et donc, il a joint l'équipe missionnaire. Et donc, Lydie, cette femme de distinction, qui était déjà dans la crainte de Dieu, va être touchée davantage par le Seigneur. Et on sait que le Saint-Esprit travaille dans les cœurs. Nous lisons dans l'Évangile de Jean que c'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Et elle écoutait l'apôtre Paul. Paul était en train de lui annoncer l'Évangile. Il lui parlait de Jésus-Christ. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit appliquait ces choses sur son cœur et lui montrait que Lydie, tu es pécheresse. Lydie, Jésus-Christ a payé pour tes péchés. Il a versé son sang. C'est lui qui te pardonne. Il est le Messie d'Israël. Crois en lui. Elle écoutait. Dieu éclairait son intelligence. Il l'illuminait. Pour qu'une personne puisse être sauvée, il faut deux choses. Il faut la parole de Dieu et il faut le Saint-Esprit. Il faut l'eau de la parole qui vient rafraîchir et nous éclairer. Et puis, il faut le Saint-Esprit qui travaille dans le cœur. Et quand il y a la conjugaison de ces deux choses, alors, eh bien, le salut peut être reçu. Et c'est ce qui va se passer. Lydie va croire. Elle va saisir. Oui, Jésus-Christ est vraiment le Messie. Oui, il est vraiment mort pour mes péchés. Oui, il me pardonne vraiment. Et dans l'instant, elle était sauvée. Elle n'a pas été sauvée le jour de sa mort. Elle a été sauvée là, le jour où elle a cru. Et la manifestation de sa foi s'est suivie par le baptême. Et même sa famille a cru, hein, puisque elle et toute sa famille sont descendues ensuite dans les eaux du baptême. Et on devrait faire ce qui est en notre pouvoir. Et puis après, ben, bien sûr, on s'attend à Dieu. Hein, c'est lui le sauveur, c'est Dieu qui sauve, nous on ne peut rien faire. Donc que Dieu, eh bien, fasse l'œuvre et sauve. Donc Lydie va devenir cette première convertie, semble-t-il, sur le sol européen, à moins que Paul ait touché d'autres dans les quelques villes où il était auparavant. Et puis c'est sa maison qui, semble-t-il aussi, va devenir la première église de Philippe. C'est là où les chrétiens vont se réunir. Et puis après, d'autres vont se convertir, notamment le geôlier. On va voir ça un peu plus loin. Et toute la famille du geôlier, déjà, eh bien, ça s'étoffe. Hein. Et l'église de Philippe va grandir jusqu'à devenir, on lit ça dans l'épître, hein, aux Philippiens, une église qui va être zélée pour l'évangile et une épître, une église qui va être généreuse pour l'œuvre missionnaire. Ils vont être vraiment bouillants pour le Seigneur. Donc Dieu voulait que l'évangile puisse toucher d'abord la Grèce et qu'ensuite, ça touche l'Asie. Donc je résume, je conclue. Dieu veut qu'on soit prêt à tout pour sauver quelques-uns. Dieu veut qu'on soit attentif au Saint-Esprit et Dieu veut qu'on compte sur lui, qui prépare les cœurs, qui travaille, qui ouvre les cœurs. Et puis après, il n'y a plus qu'à y déposer l'Évangile.